un puesto en el mismo lugar, ¿no? Y de allí de medio piso, y pues entonces pensaba, ah, yo puedo ser el pintor. Et bien, c'était le risque de l'idole au jour, l'idole de la climatisation. Une grande partie du
chauffage. Et quand il prend l'investissement hors subvention, parce qu'il y a des petites subventions, mais il ne compte pas les subventions, quand il prend l'investissement, ça va être amélioré en 10 ans. Et ça va être amorti en 10 ans. Et dans 10 ans, il gagnera beaucoup d'argent. Et bien évidemment, s'il habitait Miami ou l'Équateur, bien sûr, ce serait formidable. Alors, vous nous avez beaucoup parlé du pétrole, mais que pensez-vous de l'utilisation de toutes ces énergies diverses et variées, et bien lorsque le climat convient?
Oui, vous avez parfaitement raison. Je n'ai pas parlé des énergies nouvelles ou des énergies de remplacement parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, elles ne jouent pratiquement aucun rôle dans ce que j'appellerais l'univers géostratégique mondial. Bon, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, en petite quantité, c'est vrai, ou qu'il n'y en aura pas dans l'avenir. Mais j'ai voulu faire un exposé de ce qui existe. Alors, en matière solaire, il est exact que si l'on arrive à réduire les coûts, c'est évidemment l'une des énergies les plus propres que l'on puisse trouver pour, par exemple, se chauffer. Or, j'ai vu récemment qu'en Andalousie, où il y a énormément de soleil, il y avait tout un champ, un véritable champ de capteurs solaires qui venaient d'être installés, et qui effectivement produisent une quantité n'est pas assez importante, n'a pas de calories. C'est vrai. Seulement, on ne peut pas tout faire avec du soleil. Par exemple, on ne peut pas faire marcher, n'a pas des automobiles. On ne peut pas faire de la pétrochimie. On ne peut pas faire beaucoup de choses. Alors, vous comprenez, chaque énergie doit être adaptée à ce à quoi elle est propre. Cela dit, je ne sais pas ce qui va se passer dans un demi-siècle. Je n'en sais strictement rien. Je sais qu'on cherche à l'heure actuelle à faire marcher des automobiles avec des piles à hydrogène. Peut-être réussira-t-on à mettre au point des piles à hydrogène économiquement rentables d'ici 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Or, l'hydrogène, par exemple, pour parler d'hydrogène, il faut le produire, parce qu'il n'en est pas l'état naturel. Il faut le stocker. Et puis en plus, c'est inflammable. Par contre, ça pose des quantités de problèmes qui ne sont pas encore résolus. On les résoudra peut-être un jour. Il y a une énergie que je ne prends pas très au sérieux, et les spécialistes ne les prennent pas très au sérieux non plus, c'est l'énergie éolienne. Parce que les éoliennes, non seulement sur le plan écologique, sont une véritable catastrophe, deuxièmement, elles coûtent très cher à produire, et leur rendement est epsilonesque. Ça n'est, à mon avis, n'est pas très sérieux. Mais il y a des énergies nouvelles sur lesquelles on est en train de faire beaucoup de recherches. Je pense que le génie de l'homme arrivera très certainement à produire dans l'avenir d'autres énergies que les énergies fossiles que nous connaissons. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes bien forcés, non pas de parler de ce qui existe, et non pas de ce qui un jour pourrait exister, non pas. Et que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, 88% des énergies utilisées et utilisables sont des énergies fossiles.
Eh bien, Quentin, deux questions auxquelles vous avez déjà partiellement répondu. La première, c'est, prévoyez-vous la... Et à quelle échéance la fin, si elle doit intervenir, la fin de la domination du pétrole comme source d'énergie primaire, si jamais vous pouvez l'envisager ou la prévoir. Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé de la dépendance qui va s'accroître vis-à-vis du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Dans cette assertion, comment situez-vous le potentiel énorme dont vous avez également fait mention de la Russie en matière notamment de gaz naturel, de potentiel en ce qui concerne la production de gaz naturel. Est-ce que ça vous voulez insinuer par là que pour diverses raisons idéologiques, enfin sur lesquelles je ne m'étendrai pas, les Russes ne pourraient pas eux-mêmes ou bénéficier d'investissements étrangers qui leur permettraient d'exploiter et de produire le potentiel énergétique qu'ils ont chez eux, et notamment en matière de gaz naturel?
Bien, il y a plusieurs questions là. Alors d'abord, la question de la pérennité du pétrole. Je n'en sais rien. Il est très difficile de le dire. Mais je pense qu'à vue humaine, on peut dire qu'il y aura encore du pétrole pendant 100 ans. On va encore en trouver, on en trouve, il coûtera peut-être plus cher à produire. Mais je ne pense pas qu'il y ait une pénurie de pétrole. Alors, il peut y avoir une pénurie relative par rapport au prix de revient également, n'est-ce pas ? Par rapport, non pas à d'autres énergies. Ça, c'est possible aussi. Bon. Le gaz naturel est exactement dans la même catégorie. Quoique le gaz naturel a été beaucoup moins utilisé jusqu'à ce jour, il est possible qu'il y ait des réserves plus importantes, mais avec le gaz naturel, on ne peut pas faire tout ce que l'on fait avec du pétrole. Deuxièmement, la dépendance à l'égard du Moyen-Orient, elle existe en matière pétrolière, c'est absolument indéniable. En ce qui concerne la Russie, la dépendance à l'égard du gaz russe, eh bien, elle est de même, c'est une dépendance à l'égard de la Russie, c'est vrai. Parce que la Russie détient, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tiers des réserves de gaz naturel dans le monde. Un autre tiers étant détenu par moitié par l'Iran et le Qatar, et qui, eux, on retourne vers le Moyen-Orient, n'est-ce pas ? Le Qatar exporte déjà, n'a pas du gaz naturel liquéfié, n'a pas en quantité vers l'Extrême-Orient. Bon. Donc, les dépendances sont évidentes. L'une, en ce qui concerne le pétrole, à l'égard du Moyen-Orient, l'autre en ce qui concerne le gaz naturel, à l'égard de la Russie. Ce ne sont pas des dépendances absolues, bien sûr, parce que ce ne sont pas les seuls producteurs, mais ce sont évidemment les plus grands, les plus importants. Voilà. Alors, votre dernière question ?
Peut-être vous avez répondu, mais ma question c'était la position dominante du pétrole, est-ce que vous voyez envisager la fin de la. En matière, si on compare avec toutes les sources d'énergie, est-ce que vous pouvez envisager la fin de la domination du pétrole par rapport à l'ensemble des sources d'énergie ? Apparemment, non, c'est encore pour le long terme, c'est pas pour le moyen terme. Et ma dernière question, c'était la Russie, en tant que source d'énergie, liant le gaz naturel, le pétrole,
oui.
Est-ce qu'on peut envisager que la Russie, j'allais dire, fasse plus que contrepoids par rapport au Proche-Orient en matière de sources d'énergie pour l'Europe, puisque nous sommes en Europe et nous sommes.
La réponse est oui en ce qui concerne le gaz naturel, non en ce qui concerne le pétrole. Parce que bien que la Russie soit le deuxième producteur mondial de pétrole, ses possibilités d'exportation sont relativement réduites en raison de ses propres besoins, car c'est une grande puissance industrielle qui va encore ne pas se développer, et je ne pense pas qu'elle puisse exporter plus qu'elle n'exporte à l'heure actuelle, c'est-à-dire quelque chose comme 280 millions de tonnes par an, ce qui est déjà quand même pas mal. Eh bien écoutez, elle produit 470 millions et ça se divise à peu près par moitié entre ses besoins. Non, elle exporte plus que ses besoins, elle exporte 290 environ. Voilà. Mais on ne pourra pas, à mon avis, sauf si on découvre d'autres champs en Russie, ça n'est pas impossible, elle ne pourra pas, si vous voulez, contrebalancer l'absence du pétrole de la mer du Nord pour les pays européens.
Alors vous avez dit que vous vous attachiez à ce qui existait. En effet, c'est ce qui existe. Bon. Mais que l'avenir, on verrait. Que pensez-vous de l'avenir de la voiture électrique ? Parce que tout de même, les constructeurs y pensent actuellement.
Il est certain que dans la mesure où on peut utiliser de l'électricité pour remplacer l'essence dans les voitures, on fera de grandes économies. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore économique. On n'a pas encore trouvé la manière de stocker l'électricité dans les voitures de telle manière qu'on puisse l'utiliser à la place du carburant. Mais il y a des avancées tout à fait remarquables, comme celle de Toyota, ou par exemple, une voiture qui s'appelle la Prius, un de mes amis en possède une, où dès que l'on est à l'arrêt, l'électricité prend le relais et on ne dépense plus du tout une goutte de carburant sur une voiture à l'arrêt. Alors pour les automobilistes parisiens, c'est énorme, car c'est surtout à l'arrêt qu'ils dépensent pas le plus d'essence. Mais en dehors de cela, j'avoue que je manque de données techniques personnelles pour vous en dire beaucoup plus.
Oui, est-ce que c'est vrai que la France aurait deux gisements de pétrole, l'une en Aquitaine, dans la mer, au large de la côte d'Arcachon, et l'autre à côté de l'île de la Corse, que pour l'instant on n'exploite pas, pour différentes raisons. C'est une rumeur que j'ai entendue.
Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'un pétrolier, une société pétrolière, a trouvé du pétrole, eh bien, elle n'a ne cesse de l'exploiter que pour rembourser ses investissements, n'est-ce pas, et d'essayer de les amortir. Par conséquent, je ne pense pas beaucoup aux fables suivant lesquelles on trouve, n'est-ce pas, de très importants gisements qu'on laisse tranquilles et dormir, n'est-ce pas, au fond de l'eau ou ailleurs, n'est-ce pas. Que l'on ait trouvé des gisements au large des côtes d'Aquitaine ou de la mer d'Iroise, d'ailleurs, c'est très possible. Il y en a déjà qui ont été trouvés. Mais à ma connaissance, rien d'important. La France, malheureusement, ne produit que très très peu de pétrole et très très peu de gaz depuis que le champ de lac est épuisé. C'est regrettable, mais c'est ainsi.
J'ai entendu parler de la même chose à propos de la Guyane. Ma question, c'est, on a vu l'année dernière, à cause du pétrole à $150, une baisse de la consommation d'essence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une régulation de la demande à une offre qui serait trop élevée en termes de prix? Est-ce que là, ça permettrait aussi de diminuer la consommation plutôt que se mettre à des niveaux de consommation maximum, comme vous les évoquez?
Bien, tout d'abord, il faut rappeler que le prix de l'essence à la pompe comporte 65 à 70% de taxes qui sont prélevées et qu'elles sont proportionnelles. C'est-à-dire que lorsque le prix du brut augmente et que nécessairement le prix de ce qui sort des raffineries va aussi augmenter, eh bien les taxes gouvernementales, taxes et impôts, augmentent proportionnellement. Alors, bien entendu, vous me dites, si l'on fixe n'a pas un prix très très élevé, il y aura moins de consommation. Personne ne fixe les prix, à part l'État qui, lui, est maître de fixer ses taxes et ses impôts. Comme je le disais tout à l'heure, les prix du pétrole sont tout à fait erratiques et il est très difficile ne pas de les prévoir. Bon. Je ne sais pas si demain il va remonter à $100 ou il va stagner aux alentours de 50 ou 60. Je ne sais pas. Il y a peut-être des experts qui diront, en fonction de l'importance des stocks américains, des stocks européens, en fonction du climat, en fonction de la conjoncture politique, etc., qu'il y a des chances que le pétrole augmente, etc. Je ne sais pas. Certains économistes disent qu'il y a un prix économique du pétrole. C'est-à-dire qu'ils prévoient, qui tient compte de la déplétion des gisements, car il est évident que quand on retire, n'est-ce pas, du pétrole d'un gisement, ben on le remplace pas. Ils vont donc tenir compte du taux de déplétion et ensuite, bien sûr, du réapprovisionnement, c'est-à-dire de la recherche, c'est-à-dire des investissements à venir. Et que par conséquent, le prix du pétrole doit refléter économiquement cet ensemble de choses. Et M. Patrick Artus, qui est un financier connu, qui a écrit des ouvrages, hein, avait fixé en 2004, si mes souvenirs sont exacts, alors que le prix du baril était à $60, il avait fixé le prix économique du brut à 120 dollars. Par conséquent, le brut à 120 dollars, on en était à 140, 150 pour des raisons essentiellement spéculatives, ce qui est également les conclusions de l'OPEP d'ailleurs, enfin, je le dis en passant, eh bien, ne semble pas exagéré, et je ne pense pas qu'il y aura de très très fortes répercussions sur la consommation, d'autant plus que les fabricants d'automobiles font des efforts de plus en plus couronnés de succès pour réduire la quantité de carburant utilisé par leurs voitures.
Mais les pays producteurs eux-mêmes, ils ont leur mot à dire.
Les pays producteurs, eux, ils ont leur mot à dire en ce sens que l'OPEP, qui est le cartel donc des pays producteurs de pétrole, eh bien, lorsque les prix du pétrole ne sont pas suffisamment élevés, elle réduit sa production pour pouvoir l'élever, etc. Mais les récents événements ont prouvé que le marché était plus fort que l'OPEP. Car lorsque le pétrole était à 150 dollars, eh bien, l'OPEP, obéissant aux pressions des pays consommateurs, a essayé de hausser sa production, mais malheureusement, l'élasticité de sa production ne lui permet pas de l'augmenter indéfiniment. L'Arabie Saoudite produisait déjà 10 millions de barils jour. Voilà. Ce qui est énorme comme pays producteur. Par conséquent, et quant au reste, les pays producteurs, ben mon Dieu, et pour eux, le pétrole, est-ce qu'il les fait vivre? Alors, l'Arabie Saoudite a peut-être un volant entre ses nécessités propres et ce qu'elle reçoit du pétrole qu'elle vend. En revanche, des pays comme l'Algérie, le Venezuela et autres ont besoin de ces ressources pétrolières pour pouvoir vivre, pour pouvoir, si vous voulez, alimenter, n'a pas leur économie.
J'ai d'ailleurs une histoire amusante à raconter, enfin, c'est pas amusante pour tout le monde, c'est que nous avons un ami qui vient d'ailleurs dans nos déjeuners, qui a son job à Air France. Bon. Et il y a un an, il m'a dit, oh, mais on est très très content, le pétrole était à 150 dollars, je sais pas quoi. On est très très content parce que la compagnie a eu la possibilité de faire un contrat à long terme pour 2 ans, pour son kérosène, de sorte qu'on est couvert pendant 2 ans, donc on va pouvoir faire la concurrence aux autres. Et j'ai lu dans les journaux financiers ces temps-ci que justement l'une des raisons de la perte d'Air France KLM venait de ce malheureux contrat. On n'a pas dit si on a vidé le directeur qui avait signé le contrat, là, ça je ne sais pas. Mais ça veut dire la difficulté de tout ça.
Mais vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Claude Mandil qui était le directeur exécutif de l'Agence internationale pour l'énergie, qui a dit que les problèmes énergétiques étaient les plus compliqués du monde parce que le nombre n'a pas de paramètres qui intervenaient et quelquefois contradictoires les uns avec les autres étaient absolument sans fin. Jusque j'ai y compris, dit-il, les mesures qui sont employées pour les produits pétroliers et les autres. On parle en baril, on parle de tonnes, on parle de TEP, on parle de calories, on parle de kilowatts, on parle de kilowattheure, et tout cela, il faut savoir ce que c'est et que ça représente les uns par rapport aux autres. Alors je répète, parce que ce qui est quand même essentiel, c'est la définition du TEP, qui est la quantité de calories produite à partir d'un million de tonnes, à partir d'une tonne de pétrole, par comparaison avec les autres sources d'énergie. Elles sont donc, comme je l'ai dit, de 1,6, comment dirais-je, il faut une 1,6 tonnes de charbon pour faire une tonne de pétrole, et 1100 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour faire une tonne de pétrole. C'est la même quantité de calories que produit une tonne de pétrole. Voilà. Ça, c'est essentiel. Et il faut avoir ça dans la tête, n'est pas pour pouvoir comparer pas les différentes sources d'énergie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Vous avez toujours été un peu historique, qui est un petit peu en marge de notre sujet. Et je sais que vous êtes très bien placé pour y répondre. En ce qui concerne le pétrole de l'Algérie, des travaux de recherche et d'exploration des Français dans les années 50, ce qui m'intéresserait de savoir, c'était quand est-ce que la production, l'année approximative de la production, enfin, entre les premières recherches dans le Sahara et puis la production industrielle, on va dire, de pétrole pour l'Algérie. Vous avez des dates, des années à nous donner à peu près pour nous.
En fait, dans les années 50 dans le Sahara, si vous savez.
Eh bien, écoutez, je crois que c'est très simple. Le Sahara n'avait jamais été exploré avant la guerre. Les compagnies anglo-saxonnes ne s'y étaient pas intéressées pour des foules de raisons politiques ou techniques. Et c'est en 1945 que le général de Gaulle a créé le Bureau de recherche de pétrole et l'Institut français du pétrole pour créer un pôle industriel et d'enseignement français en matière pétrolière. Il existait déjà la régie autonome des pétroles qui avait été créée en 1937 pour exploiter le gisement de Saint-Marché dans les Pyrénées. Et la régie autonome des pétroles et le bureau de recherche de pétrole ont été les deux pôles de la recherche pétrolière française et qui s'est voulu française. C'était la politique de De Gaulle, n'a pas la politique française, n'a pas à l'époque. Alors, en ce qui concerne le Sahara, ce Sahara était divisé en essentiellement trois zones. L'une qui a été explorée par la CREPS. La CREPS, c'est une association à 60% RAP, la RAP, comme on disait, la Régie Autonome de Pétrole, 40% Shell, et qui a trouvé les grands gisements de Zarzaïtine, Tighen-Tourine, etc. dans le Sahara. Et puis, à l'ouest du Sahara, ce qu'on appelait la CEPA, qui était également une association entre les deux mêmes sociétés, mais de façon inversée, c'est-à-dire 60% Shell, 40% Régie Autonome, qui n'a pas trouvé grand-chose. Et puis, le Bureau de Recherche et Pétrole, avec toutes ses filiales, car il avait beaucoup de filiales, chacune pour chaque pays. Petropar, Safrep, la CEP, la SNREPAL en Algérie, etc. Et c'est la SNREPAL qui a trouvé en 1956 le gisement d'Assimé Saoud, dont une moitié a été donnée à la CFPA, c'est-à-dire à la Compagnie Française des Pétroles Algérie. Et c'est à partir de tous ces gisements, Edjelé, Tighen-Tourine, etc., que s'est créé ce que l'on appelle le pétrole national, qui a entraîné de la part du gouvernement l'obligation de ce que j'appelle le devoir national, c'est-à-dire d'acheter ce pétrole-là de préférence à tout ordre, à tous autres, pour être raffiné dans les raffineries françaises distribuées en France. Et à ce moment-là, donc, vous aviez le régime des A3 et des A10 pour l'importation, pas du pétrole, et pour la vente, il y avait 40% qui était réservé aux sociétés étrangères et 51% aux sociétés françaises, c'est-à-dire la Française des pétroles qui est devenue Total et l'ERAP qui est devenue Elf Aquitaine. Voilà à l'époque ce qui se passait. Et cette mainmise, en quelque sorte, de l'État sur le pétrole français a duré jusqu'en 1975. Jusqu'en 1970, lorsque l'Algérie a nationalisé son pétrole, et jusqu'en 1993 pour la France, lorsque l'Union européenne a décidé la libre concurrence, c'est-à-dire il n'appartient plus au gouvernement de réglementer les marchés à l'intérieur de chaque pays, etc. Alors l'Algérie, eh bien, à partir de ce moment-là, le pétrole français d'Algérie, qui n'était déjà plus énormément depuis l'indépendance algérienne, n'est plus devenu du tout, il est devenu algérien.
Vous avez dit 56 découvertes de pétrole.
56,
c'est assez bien, c'est ça. Et la production vraiment à échelle industrielle, on va dire, c'était à partir de quelle année environ?
C'est petit à petit. Mais il est certain que dans toutes ces années-là, le pétrole est représenté une source très importante, même pas pour les raffineries françaises. Donc, encore, je n'ai pas présent les chiffres, mais voilà.
Ben en tout cas, on va vous remercier de toutes vos connaissances qui sont extraordinaires et de vos réponses à des questions compliquées. Je voulais attirer votre attention sur une réunion de l'association Clé. Nous recevons le 2 juin son Altesse royale le prince Charles-Emmanuel de Bourbon et de Parme sur le sujet « Où est la famille aujourd'hui ?» Et vous pouvez prendre l'invitation là sur la table. C'est une personnalité extrêmement intéressante puisque il se définit lui-même comme un prince chrétien. Donc c'est tout de même extrêmement rare. Bien. Ceci étant dit, eh ben, je souhaite à tout le monde une bonne fête de la Pentecôte. Accueillons le Saint-Esprit. Amen.